Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat consacré ce samedi aux océans et au réchauffement climatique dans le cadre d'un week-end spécial sur France Culture. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est que l'année dernière, lors de ce qu'on a appelé la COP bleue à Madrid, que les océans ont été véritablement intégrés aux décisions internationales concernant le réchauffement climatique. Alors qu'ils couvrent 71% de la planète, il y avait jusque-là une nette séparation dans les discussions internationales entre terre et mer. L'année dernière, toujours, les scientifiques du GIEC ont donc tiré la sonnette d'alarme. On ne pourra pas atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris, dont on fête les 5 ans aujourd'hui, et notamment la neutralité carbone en 2050, nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d'ici la fin du siècle, sans protéger les milieux marins. Les enjeux sont multiples, ils touchent des sujets divers comme la protection de la biodiversité, la pêche, le transport maritime, l'énergie, l'aménagement des côtes, l'agriculture, les perspectives économiques de découverte et les découvertes scientifiques de développement sont nombreuses. Dès lors, si la préservation des océans est un rempart essentiel contre le réchauffement climatique, une exploitation maritime durable est-elle possible ? C'est la question du temps du débat de ce samedi à écouter en direct sur France Culture, franceculture.fr et quand vous le souhaitez, sur l'application de Radio France.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
La montée du niveau des mers, 20 cm au XXe siècle, elle est aussi exceptionnelle par rapport à un niveau des mers relativement stable pendant les 3 millénaires précédents.
La COP21 est le début d'un processus qui va limiter fortement nos émissions et rapidement.
Combien de fois on va bouger, on va reculer des murs, des digues, c'est ça qu'il faut envisager. Mais nous, on n'aura pas la possibilité de financer tout ça. Et on compte sur les puissances mondiales.
Le port de la Cotinière, ce sera le port de maintenance de l'éolien offshore, alors que le port de La Rochelle sera celui de la construction du parc éolien.
Ségolène Royal avait tenu à les associer à la COP21.
Je vois le niveau de la mer monter. Pas besoin d'être un scientifique pour le voir. J'habite ici, c'est chez moi, je le vois.
Et la COP23, ça vous dit quelque chose ?
Ouais. Espérons que les dirigeants prendront des décisions sages.
Décision de Donald Trump de sortir justement de cet accord de Paris sur le climat.
Vécu ici comme presque un non-événement. L'ensemble des pays sont tous unanimes pour reconnaître que c'est une réalité et que nous devons faire quelque chose pour le climat.
Et trois invités dans le cadre, encore une fois, de ce week-end spécial sur France Culture, consacré aux océans. De nombreux programmes à retrouver, évidemment, sur la page de franceculture.fr et à écouter en direct dès demain. Éric Carcenti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à distance depuis la Bretagne. Vous êtes le directeur scientifique de Tara Océan, qui est la première fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'océan en France. On connaît ce bateau, le Tara, qui sillonne les mers du globe et qu'on peut voir de temps en temps dans les ports et même jusqu'à Paris, où il était présent il y a quelques temps. La fondation Tara Océan, c'est aussi un observateur spécial à l'ONU qui participe pour observer le respect des objectifs du développement durable qui sont à l'agenda 2030 signalons que, c'est ce que j'ai lu en tout cas, une mission scientifique devait partir aujourd'hui de l'Orient, c'est bien ça, Éric Carcenti, un nouveau Tara Océan qui part sur les mers.
Oui, en fait, je crois qu'ils sont partis.
Bah, espérons-le.
Ils devaient partir à 16h, ils sont partis à 16h en principe, ouais.
Très bien, mais j'ai pas suivi leur
débat. Ouais.
Bah, très bien. Bah, écoutez, on verra.
Pour assez longtemps, oui.
Pour assez longtemps. Bah, écoutez, vous nous expliquerez ce qu'ils vont faire. On est également à distance depuis Saint-Nazaire, cette fois-ci avec Paul Touré. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, l'ISEMAR, qui est basé, donc, comme je le disais, à Saint-Nazaire. Il s'agit d'un observatoire expert sur le transport maritime, les ports et l'industrie navale, et plus largement sur le changement de l'économie maritime. C'est un institut qui est indépendant, mais qui a été créé à l'initiative des collectivités territoriales et des professionnels et des professions portuaires de Nantes et Saint-Nazaire. Et enfin, nous sommes également à distance, depuis Paris cette fois-ci, je crois, avec François Chartier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le chargé de campagne Océan et Pétrole, le chez Greenpeace France. Et il a fait 15 ans que vous occupez ce poste au sein de cette ONG bien connue. Un mot pour commencer avec vous, François Chartier, justement, sur cette longue absence, comme je le disais en introduction, des océans, des discussions internationales sur le climat, puisque il a fallu attendre l'année dernière, la COP 26, je crois, 25, pardon, la COP 25, pour que les océans soient intégrés aux objectifs climatiques. Comment cela s'explique?
En fait, il y a des discussions parallèles depuis très longtemps concernant la protection de la biodiversité, notamment dans le cadre de la Convention sur la biodiversité ou dans le cadre des Nations Unies, on en reparlera sûrement pour la mise en place d'un traité sur la haute mer, face à la perte de biodiversité, face aux impacts des activités industrielles, de la surpêche, etc. Ce processus existe depuis longtemps avec des objectifs de restauration des écosystèmes. En parallèle, il y a depuis longtemps, dans le travail de la COP climat, tout le travail pour un accord qui a été celui de l'accord de Paris, et le travail scientifique pour voir comment on peut réduire les émissions de CO2 et justement maintenir le réchauffement climatique dans le cadre des 1 degré. Ce qu'a montré finalement le rapport du GIEC de l'année dernière, c'est que d'une part, l'ampleur de l'impact sur les océans du changement climatique, en termes de réchauffement, d'acidification, etc. C'est la première fois qu'on s'intéressait à ça, sur les océans et sur ce qu'on appelle la cryosphère, les zones glacées. Mais ce que ça a permis de montrer aussi, c'est comment les océans, en les protégeant, peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique. Et c'est cette interconnexion qui est extrêmement importante et extrêmement intéressante en termes d'outils politiques pour se poser la question de la lutte contre la biodiversité, enfin la perte de biodiversité et la lutte contre le changement climatique.
Oui, Bruno Carsanti, les océans sont évidemment subissent le réchauffement climatique, le réchauffement des eaux, l'acidification, on en entend parler, la montée des eaux aussi, mais ça c'est un autre problème. Enfin, tout ça est évidemment lié, mais comme vient de le dire à l'instant François Chartier, la nouveauté en quelque sorte, en tout cas la nouveauté quand on pense aux discussions internationales sur la question de la limitation des émissions de gaz à effet de serre et notamment du bilan carbone, c'est cette approche en tant que puits à carbone des océans. Comment ça fonctionne, vous qui êtes, je le rappelle, le directeur scientifique de Tarocean, vous êtes un biologiste?
Oui, en fait, il y a deux choses, c'est-à-dire que le gaz carbonique qui est relâché dans l'atmosphère se dissout dans l'océan, donc la capacité de dissolution de ce gaz dans l'eau, en fait, est très importante, donc il y a une grosse partie du gaz carbonique qui est absorbé par l'océan, simplement par diffusion, et puis l'océan capte aussi beaucoup de la température, température ambiante en se réchauffant. Et l'autre aspect de la pompe, alors ça c'est une pompe à, disons, un CO2 et puis une régulation de la température en temps réel, qui est quasiment à notre échelle de temps. Par contre, la séquestration du carbone du CO2 par l'océan, c'est quelque chose qui se passe sur une échelle de temps beaucoup plus longue et qui implique la vie. C'est-à-dire que c'est tous les organismes qui vivent dans les micro-organismes qui vivent dans l'océan font beaucoup de photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils utilisent du gaz carbonique avec la lumière pour fabriquer de la matière vivante. Cette matière vivante, il y en a une partie qui est recyclée, donc qui contribue pas trop à la séquestration du CO2, mais une partie qui tombe au fond de l'océan et qui est en fait piégée au fond de l'océan, et donc on enlève du gaz carbonique de cette façon-là, quoi, en l'intégrant dans de la matière vivante qui tombe au fond des océans. La pompe à carbone biologique, c'est ça, quoi.
Ce fameux microbiome que part justement à analyser, étudier, voilà, la mission Tara qui partait de l'Orient aujourd'hui à 16h. Et on les salue. Paul Touré, comment est-ce que vous observez et vous comprenez que les océans aient été intégrés si tardivement? En effet, il y avait déjà des discussions, et beaucoup de discussions internationales, évidemment, sur la régulation des océans, sur les questions marchandes, économique aussi, les questions environnementales bien sûr, mais qu'on ait intégré à ces discussions plus larges sur le réchauffement climatique que très récemment les océans. Comment est-ce que vous le comprenez, Paul Touré?
On va en fait distinguer le maritime de la problématique des océans. Le réchauffement climatique, le réchauffement des océans, le puits de carbone, enfin tous ces aspects qui ont été mis en avant par les recherches et par la sensibilisation du public en général. Et d'un côté, c'est une problématique, et puis d'autre côté, il y a ce que fait le transport maritime, qui lui est qu'une part de l'activité humaine. Et là, on voit qu'il y a plutôt une avance, puisqu'après la conférence de Copenhague, il y a une quinzaine d'années, le transport maritime a beaucoup évolué, l'Organisation maritime internationale a pris des règles les unes après les autres. Et là, on peut dire que ça a plutôt avancé correctement, mais ce n'est qu'un petit secteur économique, même si c'est fondamental pour notre vie aujourd'hui, qu'il faut distinguer de la problématique générale de la prise en compte des océans dans le cadre de notre notion environnementale telle qu'on veut la développer au XXIe siècle.
Paul Touré, il y a la question du, comme vous l'avez dit, du transport. Il y a aussi la question de la pêche. Je veux dire, l'exploitation maritime, l'exploitation économique de la mer, elle se résume pas à la question du, à la question du transport. Et l'impact économique sur l'environnement maritime, il se limite pas évidemment au transport. Hein. Il y a eu notamment un rapport de l'IPSES, hein, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, pardon pour ce long acronyme, qui a montré, hein, l'importance, par exemple, de la pêche, hein, sur le poids de la pêche sur l'environnement maritime.
En fait, on a une grande révolution, c'est-à-dire qu'on prend maintenant tous les aspects environnementaux de notre vie, qu'elles soient terrestres ou maritimes, et on en fait une grande réflexion et des grands enjeux. Évidemment, on en est souvent à plusieurs millénaires d'exploitation de la mer pour la pêche comme pour le transport, avec forcément depuis une vingtaine d'années à la fois la pêche intensive comme le transport maritime à l'âge de la globalisation. On pourrait rajouter évidemment l'exploitation des hydrocarbures. Donc on a une impression d'une pression humaine sur la ressource du vivant et par l'usage de la mer qui est évidemment mis en cause. Mais encore une fois, ce n'est qu'un élément de notre prise en compte des océans, c'est-à-dire qu'il y a les nuisances humaines dans toute leur grandeur ou leur malheur plutôt. Et puis d'un autre côté, ben, c'est l'évolution d'un biotope qu'on est en train de découvrir, et l'intérêt de ces différentes missions et de toutes les sensibilisations, c'est bien de comprendre que c'est un des milieux fragiles. Or, il faut pas oublier qu'on arrive plutôt de plusieurs décennies où on considérait la mer qui n'avait aucun souci. On pouvait l'exploiter, on pouvait l'utiliser, on pouvait la vider pratiquement de son vivant sans beaucoup de précautions. Et c'est tout le combat environnemental depuis pratiquement 40 ans qui est aujourd'hui achevé, puisque l'ensemble des filières économiques, que ça soit celle de la pêche ou celle du transport maritime, a pris conscience qu'il fallait s'adapter à ces enjeux environnementaux.
François Chartier ?
Peut-être oui, pour réagir. Oui, c'est vrai que là, il a fallu des décennies pour que la prise de conscience se généralise. Et des décennies.
Un combat achevé, nous dit Paul Touré.
Alors voilà, justement, des décennies pour que la science et les ONG notamment tentent de sensibiliser les intérêts économiques et politiques. Alors malheureusement, non, loin de là, et même une aggravation de la situation de la pression humaine sur les océans. La surpêche, si on regarde les indicateurs de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation, on a globalement 80% des stocks de poissons qui sont soit surexploités, dans le rouge très clairement, soit pleinement exploités avec aucune marge de manœuvre. Et ça, c'est 1% des bateaux, donc les flottes industrielles, les fameux navires usines subventionnés par les États développés, qui en sont responsables, puisqu'on a 1% de cette flotte mondiale qui paye 50% de la ressource. Et ça se fait dans un cadre international, c'est un peu technique, mais en gros qui est très mal régulé, parce que justement les lobbies de ces flottes industrielles empêchent la mise en place de zones d'exclusion, d'aires marines protégées, empêchent la réduction des quotas et la lutte contre les techniques de pêche destructrice ou la pêche illégale. Donc là, on a, et c'est malheureusement la plus grosse menace aujourd'hui sur la biodiversité marine, c'est là où on prend de la biomasse, on retire de la biomasse, et aujourd'hui la situation est malheureusement extrêmement, extrêmement inquiétante, malgré la prise de conscience. Et pour la question du transport maritime, bah, malheureusement, il n'est pas intégré dans l'accord de Paris comme le transport aérien. Donc, c'est effectivement un souci.
C'est un souci, en effet. Alors, évidemment, on va essayer d'être un peu moins technique, enfin, de pas trop être technique, mais c'est vrai que c'est des sujets, hein, qui le sont éminemment, ces sujets qui sont liés à l'environnement maritime. Vous vouliez réagir, peut-être, Éric Carcentier, à ce qui a été dit, notamment sur cette pression, hein, qui s'exerce sur les milieux maritimes.
Oui, effectivement. Ben, le problème, c'est que si vous voulez, pendant longtemps, l'humanité, on n'était pas tellement nombreux, et donc ce qu'on faisait, c'était pas, ça avait des conséquences relativement faibles. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on est des milliards, et donc pour nourrir tout ce monde, ben il a fallu développer des méthodes intensives qui ont vraiment perturbé le système. Alors on peut pas, je pense qu'on peut, c'est clair qu'on peut pas continuer comme ça. Et il faut donc, il va falloir avoir des informations quantitatives, si vous voulez, sur la structure des écosystèmes. Et il faut surtout que les grandes pêcheries écoutent ce que leur disent les scientifiques pour réguler les quotas.
Éric Carcentier, aujourd'hui,
Juste, oui. Je voulais savoir si aujourd'hui, vous dites qu'il faudrait avoir des informations, des données. On ne les a pas aujourd'hui, ces données. Elles sont très lacunaires. On dit souvent qu'on connaît mieux la Lune que l'océan. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu, peut-être une boutade, mais c'est vrai que c'est assez mal connu, c'est ça?
Oui, c'est assez mal connu parce que même en ce qui concerne les stocks de poissons, parce que c'est largement basé, disons, notre connaissance des stocks de poissons est largement basée sur les prises, c'est-à-dire sur ce qui est pêché par les pêcheurs. Mais il y a d'autres moyens de faire, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, ce qu'on fait sur Tara, c'est qu'on mesure la quantité de plancton, hein, et la diversité du plancton qui est mangé par les poissons, et c'est ça qui est à la base du développement de la plupart des poissons, de la chaîne alimentaire, disons. Et donc on peut avoir une idée, si vous voulez, des possibilités de récupération de différentes zones, parce que l'océan est complètement hétérogène, hein, c'est pas du tout la même chose si vous regardez l'océan dans les régions tropicales ou dans les régions polaires. Vous n'avez pas du tout le même écosystème, il n'y a pas les mêmes ressources, les mêmes possibilités de récupération, et donc il va falloir adapter un petit peu la pêche à ça. Mais c'est sûr que de toute façon, en ce moment, il y a les gros navires usines sont un désastre, parce que d'une part par la quantité de poissons qui pêchent, et aussi par les méthodes de pêche, parce qu'il y a une destruction collatérale considérable des organismes qui sont même pas utilisés pour la nourriture, quoi. Avec les méthodes de pêche modernes, c'est assez catastrophique. Donc il va falloir revenir là-dessus, ouais, pour ce qui est de la pêche. Mais ça a pas beaucoup, bon, c'est un peu différent des questions qui ont à voir avec le réchauffement climatique, quelque part.
Oui, bien sûr, évidemment, mais c'est vrai qu'on essaye de faire un petit point sur l'impact justement écologique sur l'environnement et sur les océans. Alors justement, puisque vous en parlez à l'instant, Éric Kersanti, je propose d'écouter Claire Nouvian, qui est la fondatrice de l'association Bloom, qui travaille justement sur ces questions de la pêche, de la surpêche, et qui parle de deux techniques dont je vais vous inviter ensuite, sur lesquelles je vais vous inviter ensuite à réagir.
On s'est battu pendant des années contre le chalutage en eau profonde et on a obtenu gain de cause avec nos collègues européens au niveau du Parlement européen, qui finalement a accepté d'interdire, avec le Conseil et la Commission européenne, toute la pêche au chalut, c'est-à-dire le chalut de fond qui passe dans les grandes profondeurs et qui racle tout. Les bateaux industriels dans l'Atlantique Nord-Est allaient jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et donc, on a obtenu que ça, ce soit au moins interdit au-delà de 800 mètres. Et en fait, on recommence avec la pêche électrique. Et alors, la pêche électrique, c'est un système. On ne pensait pas avoir à se battre contre cette nouvelle invention complètement absurde et destructrice. La pêche électrique, ça électrocute toute la vie marine. Donc, on a un impact sur les œufs, sur les juvéniles. Ça génère une tension musculaire telle que ça fracture leur colonne. Enfin, vous imaginez la brutalité de cette méthode de pêche. Et évidemment, ça a été interdit en Europe en 1998 et autorisé sous un régime de dérogation en raison de la corruption morale profonde de la Commission européenne et de sa complicité avec les lobbies de la pêche industrielle néerlandais.
Voilà, Claire Nouvian, chez nos confrères de France 24, Paul Touré, sur ces méthodes de pêche, hein, dont on a beaucoup entendu parler. Encore récemment aussi, on parlait de cette énorme bateau-usine qui était au large des côtes de Fécamp. C'est vrai que la pêche est souvent dans le viseur, hein, de celles et ceux qui défendent l'environnement et les océans.
Il finit par y avoir une inadéquation entre ce qu'attendent les populations, qui sont aussi des consommatrices, et puis les pratiques aujourd'hui de la pêche, notamment la pêche industrielle, et on a l'impression effectivement d'une image de vider la mer, et pas forcément d'être dans de la gestion durable. Alors on sait que la politique communautaire de pêche, tous les quotas, évidemment avec le Brexit au milieu maintenant qui ajoute peut-être un peu de complexité, on tendait à laisser penser que la pêche était gérée d'une manière relativement durable. Et puis il y a cette image aussi d'une pêche grise ou d'une pêche noire, hein, on pourrait dire, pratiquée par certains pays d'Extrême-Orient, des pays relativement tolérants sur le droit de pêche. Et effectivement, l'exploitation de la ressource en mer finit par être aujourd'hui problématique et poser une vraie question de fond. Alors on a des associations surmilitantes, comme on a eu un peu l'occasion de temps en temps de l'entendre, on a aussi des lobbies qui jouent à Bruxelles, et on est vraiment dans la quintessence d'un problème de notre époque, c'est-à-dire une vision contradictoire entre le consommateur et le citoyen de temps en temps. Je parle du prix du poisson qu'il peut payer au supermarché, et puis des intérêts économiques, des régions et des pays. Hein. En Espagne, en Europe du Nord, on voit bien qu'on a des états de pêche qui peuvent avoir à agir. Et on voit bien toute cette contradiction. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence avec le transport maritime, pour y revenir. C'est-à-dire que le transport maritime est un service. Et on peut toujours le réglementer, parce qu'aujourd'hui, on a des États qui le veulent bien, alors que la pêche est encore dans une zone relativement grise et mériterait des fois plus de décisions et un véritable arbitrage si on veut effectivement pas vider le fond des mers. Et puis pour finir, il y a quand même une résonance avec le réchauffement climatique, puisque ça perturbe les pêches à l'échelle de à la fois de la colonne d'eau comme des espaces géographiques traditionnels de pêche. Et on voit bien que les questions vont peut-être être encore plus aiguës ces prochaines décennies.
François Chartier.
Oui, bah ça illustre bien qu'on a un problème de régulation des pêcheries au niveau global, et que c'est pas en fait c'est une question tout à fait globale. Non seulement parce que la biodiversité des océans, notamment certaines espèces sont migratrices et tout ça interagit, mais parce que le modèle de l'économie des pêches, il est super globalisé, il est super centralisé. La pêche électrique ou la pêche de grand fond, ça reste assez anecdotique en volume, et il faut pas que ça cache la réalité des gros volumes de ce que nous, on mange comme poisson en France. On est des gros mangeurs de produits de la mer. On mange du thon pêché par des flottes industrielles. Ça a un impact sur les stocks tropicaux, et ça a un impact sur les populations locales qui en vivent, et là, c'est un enjeu de sécurité alimentaire. Et tout ça s'explique aussi par les lacunes de la gouvernance globale des océans. Elle est complètement fractionnée. C'est-à-dire qu'on peut... Alors, la gouvernance de la pêche, elle fonctionne mal parce qu'elle est sous l'influence des lobbies et des États comme la France, l'Espagne ou les États asiatiques au niveau des forums internationaux sur la pêche. Mais lorsqu'on veut réguler un espace marin, alors on a déjà du mal avec la pêche. Pour ce qui est de l'extraction, là, pareil, c'est une couche différente, c'est une autre organisation des Nations Unies. Si ensuite on veut réguler le trafic maritime, il faut aller voir une autre organisation. Malheureusement, le problème du trafic maritime, c'est qu'aujourd'hui, les grands acteurs ont recours à des pavillons de complaisance. Donc, en fait, on a un système où on peut réguler ce qu'on veut, mais les acteurs sont en fait dans un régime d'irresponsabilité juridique permanent. Donc, on a finalement, ce qui a été bien décrit et de plus en plus décrit, une jungle de la haute mer. Une jungle en termes environnementaux, en termes juridiques, en termes économiques, aussi en termes sociaux. La haute mer et la pêche en haute mer, notamment les flottes asiatiques, c'est un lieu où on trouve de l'esclavage moderne. L'exploitation du minerai, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel mise l'industrie. Il n'y a pas de régulation pour l'empêcher. Le principe de précaution et la science disent attention, il ne faut surtout pas y aller. Et il y a un rush là-dessus. Donc tout ça montre qu'en fait, chacun de ces éléments des problèmes qui touchent la mer se comprennent par ce millefeuille et par cette absence de régulation politique, notamment dans le cadre des Nations Unies. Et c'est pour ça qu'il y a ces discussions sur un traité actuellement.
Alors Eric Carsanti, je le rappelle, hein, Tara Océan fait partie des observateurs spéciaux à l'ONU et qui participe aux objectifs de développement durable à l'agenda 2030. Or, ce que vient de nous dire notamment François Chartier, vous aviez l'air d'acquiescer, c'est qu'il y a un problème de gouvernance mondiale, de gouvernance internationale, une trop grande dispersion peut-être des interlocuteurs, une difficulté aussi à gérer ces zones grises, pour reprendre là les mots de Paul Touré, ces zones grises d'un point de vue légal dans la haute mer.
Ouais, c'est extrêmement compliqué parce que, si vous voulez, en fait, c'est un peu comme tout le reste, tous les problèmes qu'on a en ce moment avec la régulation de notre planète, c'est que on est parti sur cette notion de liberté absolue, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, c'est la libre entreprise, hein, c'est très ancré dans les mentalités. Le problème, c'est ça revient à ce que je disais, c'est que la libre entreprise au niveau écologique, ça va tant qu'on n'est pas nombreux, mais quand on arrive à être, si vous voulez, des milliards, c'est-à-dire qu'on est quasiment aussi nombreux que certains micro-organismes, on impacte considérablement notre environnement. Donc on ne peut plus, c'est plus possible de se comporter en prédateur innocent. C'est-à-dire qu'on est obligé de contrôler notre environnement. C'est-à-dire qu'on peut plus laisser les gens faire ce qu'ils veulent. En gros, c'est un peu embêtant, mais si vous voulez, il faut mettre en place un système de coordination internationale. Mais c'est extrêmement complexe. Regardez ce qui se passe avec les Anglais. Le Brexit est en train de les négociations sur le Brexit n'arrivent pas à aboutir, principalement à cause de la pêche, parce qu'à cause des zones de pêche anglaises et européennes. Et donc c'est parce que les pêcheurs, ils veulent pas que les Français ou les Européens, les pêcheurs anglais veulent pas qu'on aille pêcher chez eux. Et ils veulent garder la souveraineté sur leur méthode de pêche. Ils veulent pas être contrôlés par l'Union européenne. Donc c'est catastrophique. Et c'est comme ça à peu près pour le monde entier. Donc je sais pas trop comment régler ce problème. Hein. C'est un problème très complexe.
Hein. Mais il semble pourtant les uns et les autres qu'il y a une prise de conscience. Hein. Je pense par exemple, là, on a appris récemment, il y a une dizaine de jours, que il y avait un certain nombre de pays qui s'engageaient dans la protection. 14 pays, voilà, qui appelaient à mettre les océans au cœur de la reprise économique mondiale. Le Ocean Panel, c'était fin novembre. Une initiative qui est soutenue par l'ONU, il y a des pays comme le Portugal, l'Australie, l'Indonésie, la Norvège, un certain nombre de pays, donc, et qui pourraient investir dans des océans en bonne santé. On voit qu'il y a un certain nombre de traités, comme les traités sur la haute mer, qui sont en cours de discussion. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, Paul Touré, est-ce que c'est vraiment la jungle? Est-ce que c'est le Far West, la mer, la haute mer? Ou est-ce qu'il y a quand même un cadre dans lequel ça s'inscrit?
Alors, d'abord, il faut un peu se méfier d'une forme de greenwashing avec du bleu qui entraîne de faire souvent les États, c'est-à-dire d'utiliser les océans qui ne portent aucun enjeu. Si vous voulez, personne va protester. Et je trouve que des fois, il y a cette tentation d'utiliser la mer comme une sorte de hocher du développement futur. Il faut se garder raison. Des politiques publiques, il y en a plein pour la mer. On le voit sur le développement des énergies marines renouvelables, par exemple, dans le verdissement des ports et des navires, comme par exemple c'est mené en France. Et ça, c'est tout à fait louable. La politique internationale, comme les politiques nationales, ont tendance des fois à utiliser les grandes déclarations et ce genre de choses pour, en gros, méfions-nous de la communication politique. Par contre, je trouve, alors évidemment, regardant comme un observateur économique, j'ai tendance à voir le verre à moitié rempli, là où des fois les associations environnementales le verront à moitié vide, si vous voulez. Je trouve qu'effectivement, le transport maritime a plutôt bien évolué. Il faut pas oublier qu'il évolue que par la contrainte. Et la dernière fois, c'était il y a 20 ans, l'accident de l'Erika puis du Prestige, qui ont quand même fait beaucoup progresser le transport maritime, en tout cas sur l'absence de grande pollution ces dernières années, les nouvelles technologies aidant aussi, hein, on a plus de vision quand même de ce qui se passe sur les mers. L'OMI a pris des grandes résolutions sur la réduction des gaz à émissions, des gaz à effet de serre. On annonce la décarbonation, certes pour 2040, mais ou 2050, mais en tout cas elle est orientée. Je trouve que le transport maritime va plutôt mieux qu'avant et qu'il est dans la bonne voie. On a eu des progrès sociaux. Alors évidemment, on l'accusera toujours d'être dans une forme de, encore une fois, de zone grise ou de zone entre gris et blanc de l'économie mondiale, de profiter évidemment de la globalisation et du libéralisme. Hein. La situation des marins, on l'a vu d'ailleurs avec le Covid, les difficultés aujourd'hui qu'ont connu les marins, abandonnés de temps en temps à leur sort, mais aussi par une situation internationale difficile. On a encore des accidents, on a évidemment des problèmes, mais quand on pense aux 12 milliards de tonnes chaque année, aux 50 000 navires qu'il y a sur nos mers, le bilan est quand même acceptable. Et encore une fois, on mettra toujours un accident comme il y a eu lieu à Maurice cet été. Il y aura toujours des problèmes. Hein. L'accident de Beyrouth, il y aura toujours des choses comme ça, des marins perdus et des navires abandonnés et des sociétés qui frisent avec le banditisme. C'est une évidence. Mais c'est pour ça que le progrès est important et c'est pour ça qu'il faut des États maritimistes qui soient volontaristes comme la France. Il faut sensibiliser toujours la Grèce, le Danemark, la Norvège. Il faut les efforts chinois ou japonais d'un côté. Pour avancer, je trouve qu'encore une fois, et pour finir, c'est une économie de service. Dire que demain, il y aura $20 par tonne de pétrole consommé parce que c'est mieux pour la planète, on le fera et à la fin, ça se finira dans notre consommation. C'est beaucoup plus facile d'encadrer le transport maritime que d'autres pratiques en mer, comme j'ai dit auparavant.
Oui, justement, François Chartier, c'est vrai qu'il faut rappeler que le transport maritime, je crois que c'est 95% des échanges de marchandises sur le globe, et c'est aussi beaucoup moins polluant, évidemment, que le transport routier, et infiniment moins polluant, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 6 fois moins polluant que le transport routier, 15 fois moins polluant que le transport aérien, et on a vu aussi des évolutions, et en tout cas, il y a des perspectives d'évolution, il y a un cargo à voile qui est parti de France récemment, on pense aussi évidemment à la possibilité de développer des biocarburants pour les navires, de développer l'électrique. Comment est-ce que vous regardez ça chez Greenpeace ?
Oui, c'est assez vrai. Alors, c'est cette importance du transport maritime, il faut la mettre en perspective avec le fait que si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, il va falloir de toute façon en grande partie relocaliser nos économies, nos agricultures, donc à terme être aussi dans une logique de décroissance du volume transporté, aussi bien que de décarbonation, que ça soit la voile évidemment ou d'autres technologies. Et c'est vrai que par certains côtés, on peut estimer qu'on peut être à une certaine croisée des chemins, d'une part pour deux raisons, je dirais. D'une part parce qu'on a sur la table pour les océans des objectifs et des stratégies assez ambitieuses, notamment ce traité sur la haute mer qui comporte des éléments intéressants. Il ne faut pas qu'il soit trop vidé de son contenu dans la négo, mais ça c'est une autre chose. L'objectif de protéger 30% des océans d'ici 2030, qui va être discuté en Chine l'année prochaine à la CBD, est ambitieux si on protège vraiment. Et on a une stratégie nationale pareil de protection pour les aires protégées en France, qui parle de 30% de protection et de 10% de protection forte. Tout ça, c'est encourageant si c'est autre chose que de l'habillage, de l'affichage, et c'est ce qu'on voit malheureusement un peu avec le gouvernement actuel, où on a un champion du climat, mais quand on regarde justement la stratégie française sur les aires marines protégées, les fameuses zones de protection forte, en fait, elles correspondent à aucun standard scientifique, et finalement, elles permettent l'activité industrielle. Donc là, on est dans une forme de greenwashing. Et l'autre greenwashing auquel il faut faire attention dans cette perspective de décarboner, de transition des usages des océans et des activités, c'est justement d'éviter un certain nombre de fausses solutions qu'on voit émerger. On voit tout le débat autour de l'hydrogène. On peut mettre de l'hydrogène sur les cargos. Si cet hydrogène est produit avec du nucléaire ou avec du gaz, on a raté le coup. Donc il y a ce piège aussi, voilà, des fausses solutions. C'est pour ça qu'on est un peu à la croisée des chemins. Et ce qu'il faut, c'est le courage politique et choisir collectivement les bonnes solutions, les bonnes alternatives.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Week-end spécial océan sur France Culture. D'ailleurs, un prochain rendez-vous à 21h avec la fiction et l'écriture de Prendre le large qui sont programmés à 21h et aussi demain, dimanche, il y aura d'autres programmes sur ce sujet. On en discute dans le temps du débat du samedi autour de la question de savoir si une exploitation maritime durable est possible. On parle aussi évidemment de biodiversité avec Eric Carsanti qui est le directeur scientifique de Tara Océan, Paul Touré qui est le directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime et François Chartier qui est chargé de campagne océan et pétrole chez Greenpeace. Un mot, Eric Carsanti, tout de même, puisque ce qu'on entend depuis le début de cette conversation, c'est les liens évidemment entre recherche scientifique, développement économique, contraintes climatiques et l'ONU, puisqu'on en parle beaucoup aussi ce soir, a annoncé que 2021 serait le lancement d'une décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable. Et donc, je vous pose la question, puisqu'il y a aussi beaucoup de discussions sur ce thème de développement durable qui est un peu remis en cause en ce moment, puisque dans le développement durable, il y a développement et peut-être que tant qu'il y a du développement, on n'arrivera pas à résoudre nos problèmes. Comment est-ce que vous percevez cette décennie pour les sciences océaniques? Qu'est-ce que ça va vous permettre? Et est-ce que vous reprenez à votre compte, vous, cette idée de développement durable?
C'est-à-dire que le mot développement est un peu ambigu parce que c'est pas forcément de la croissance, hein. Du développement, c'est ça peut être aussi de changer notre façon de fonctionner, c'est-à-dire de prendre ce dont on a besoin dans la nature tout en la protégeant. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a besoin de se nourrir, on a besoin d'utiliser les ressources naturelles, hein. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver le moyen de le faire de façon harmonieuse avec cette nature, de façon Alors durable, ça veut dire circulaire, c'est-à-dire qu'on ce qu'on prélève, il faut que ça se renouvelle. Hein, il faut réussir à maintenir le système dans un état, dans un cycle. C'est ça le gros problème. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut pas le faire sans la science, parce que il faut comprendre la dynamique de ces cycles de consommation et de production. Bon, la mer, l'océan, évidemment, les organismes océaniques sont capables de se reproduire très très rapidement, hein, sont capables de produire beaucoup d'œufs, d'embryons, et donc ça, quand on lâche la pression, ça revient très très vite. Donc,
oui, parce qu'on a vu par exemple, on a beaucoup parlé du thon rouge en Méditerranée, par exemple, je crois qu'en préparant cette émission, vous parliez des coquilles Saint-Jacques en Normandie. Voilà, il y a quand même des exemples où on voit que
on peut parfaitement organiser. Disons l'utilisation des ressources maritimes de façon harmonieuse, mais ça passera jamais par l'exploitation industrielle intensive qu'on a en ce moment. C'est pas possible. Il faut repenser toute cette filière. Moi, j'aime beaucoup les pêcheurs. Hein. Je trouve que c'est un métier très dur et fantastique, mais il faut repenser cette relation entre la pêche, la grande industrie de la pêche, les pêcheurs eux-mêmes. Et la façon de pêcher quoi, c'est différent, il faut changer, et il faut se baser sur ce qu'on sait des écosystèmes marins. Donc pour en revenir à votre question, si vous voulez, sur la recherche, je pense que une des choses importantes qu'on a faites avec la première expédition de Tarocéen et qu'on continue à faire actuellement, c'est de montrer, si vous voulez, l'importance de la vie microscopique maritime. Et comment justement cette sa capacité à se reproduire et à soutenir les plus grosses espèces quoi. Et si vous voulez, c'est très complexe, parce que vous avez l'histoire de la morue, c'est assez clair. Quand on a surpêché la morue, bon, tout le système s'est écroulé. Et puis il y avait plus de morue, c'est parce que quand on en enlève trop, eh ben la morue mange plus des prédateurs qui mangent les œufs et les bébés des morues. Donc si on descend en dessous d'un certain, disons, équilibre, le système s'écroule. Et donc là, c'est embêtant, parce qu'après, c'est très long à revenir. Comme en plus, il y a le changement climatique en ce moment, et ce qu'on voit aussi, c'est que la distribution de ces micro-organismes va changer beaucoup dans les années à venir. C'est-à-dire que je pense pas qu'il va y avoir une décroissance colossale de cette biodiversité, mais elle va changer, cette biodiversité va changer. Et surtout, la nature de cette diversité... Et à des endroits spécifiques va changer, c'est-à-dire qu'on va plus avoir la même diversité au pôle nord, à l'équateur et dans les zones tempérées. Tout le système va se remodeler avec le
réchauffement climatique,
la réorganisation. Voilà.
D'accord.
Donc c'est très très important, si vous voulez, de faire de la recherche effectivement dans ce cadre-là, pour bien comprendre tous ces écosystèmes et essayer d'utiliser ce qu'on va apprendre pour gérer justement l'utilisation des ressources maritimes.
François Chartier, ce terme de développement durable, vous le reprenez à votre compte aussi ?
Alors, il y a deux piliers pour comprendre ça. Il y a le pilier de quelle économie, de comment avoir une économie durable des activités en mer, et puis il y a le pilier conservation. Ça marche sur ces deux jambes, et le pilier conservation, c'est notamment, on évoquait la pêche, c'est un formidable outil pour justement dynamiser l'économie. Plus vous protégez des vastes surfaces des océans, plus vous créez un effet déversoir. Le poisson, il connaît pas la frontière. Et donc, en fait, vous allez augmenter les capacités de prise des pêcheurs. Évidemment, si, comme ça vient d'être dit, si c'est pas avec des pratiques industrielles, destructrices, qui vont d'un coup remettre en cause tous les bénéfices de la conservation. Et pareil, une économie durable, c'est par exemple savoir fonctionner. Je peux prendre un autre exemple, parce que c'est dans l'actualité maritime beaucoup, c'est est-ce qu'on va aller exploiter du minerai en grande profondeur, tout ce dont on a besoin pour les batteries des voitures électriques, les cellules photovoltaïques et la high-tech, tout ce qui est terres rares, cobalt, etc. Il y a apparemment des quantités phénoménales de ces minerais, et des industriels, un peu les mêmes d'ailleurs qui viennent du pétrole, veulent les exploiter. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de le faire, mais c'est en négociation. Ce que dit la science, et c'est là où la science est extrêmement importante, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen de dire qu'on peut faire ça de manière durable. On va retourner ce fameux sédiment dont il était question qui stocke du carbone. On va probablement avoir un impact terrible sur les endroits qui sont à l'origine de la vie sur Terre. Et c'est là pourquoi on a besoin de la science, justement pour montrer qu'une économie durable, dans ce cas-là, elle doit se passer de ce type d'exploitation et elle doit reposer sur une économie circulaire, c'est-à-dire le recyclage des minerais qui circulent aujourd'hui et la sobriété, l'obsolescence programmée. Donc en fait, une grosse partie des enjeux maritimes, c'est sur notre économie terrestre qui se joue, sur notre économie. Est-ce que c'est une économie prédatrice qui court après des nouvelles frontières à chaque fois pour du poisson, du minerai, du pétrole, ou est-ce que c'est une économie durable, donc circulaire? C'est là où on peut se poser cette question-là.
Paul Touré, une mer à la fois productrice et protégée, ça vous semble possible pour rebondir un peu sur cette idée de développement durable?
Encore une fois, il faut la volonté des États. Je crois que les populations, certains partis politiques sont là pour donner les exigences. Maintenant, il faut que les États le veuillent et au-delà simplement de déclarations de principe.
Les États et les acteurs économiques aussi.
Paul
Touré, les acteurs économiques aussi.
C'est pour ça que je vais y répondre. Il y a des politiques publiques à mettre en place, mais je crois que l'avantage, en tout cas pour le transport maritime, moins peut-être pour la pêche, mais pour le transport maritime, ça marche plutôt bien. Il y a le double effet. Il y a la réduction des impacts nuisibles à l'environnement, et puis il y a aussi les économies d'énergie, parce que le transport maritime est un utilisateur d'énergie, et c'est une bonne voie aussi pour faire avancer les entreprises. Aujourd'hui, il y a un bon mot pour le 21e siècle, c'est l'efficience, et le transport maritime qui a été confronté à des, comme nous aussi à la pompe, à des prix assez élevé il y a quelques années, c'est que de toute façon l'énergie va devenir de plus en plus chère, il faut l'économiser, il faut aller sur des mix énergétiques. Donc il y a une forme de développement durable et on ne peut pas douter que le navire du 21e siècle n'est pas encore là, il a encore une bonne décennie avant de se construire, mais la réduction des impacts environnementaux des navires sera forcément réduite dans les décennies. Donc il y a des moyens entre la recherche, l'innovation, l'intérêt des entreprises et les politiques publiques. Mais encore une fois, le transport maritime n'est qu'un petit phénomène à la fois dans l'économie globale comme dans l'impact sur les océans. Ça mettra un peu de temps, mais il y a pas trop de soucis à se faire. Je suis plutôt optimiste là-dessus.
Alors pour essayer d'être complet, François Chartier, on parle aussi beaucoup des énergies renouvelables et du cas de l'éolien offshore, sans, il faut bien le dire, en tout cas en préparant cette émission, sans qu'on puisse se faire une idée très clairement de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Voilà, pour le dire de manière assez naïve, quelle est votre position chez Greenpeace sur cette question de l'éolien offshore? C'est-à-dire que d'un côté, on a là la possibilité d'énergie renouvelable de manière assez massive, et d'un autre côté, ça pose tout un tas de questions, des questions environnementales aussi.
L'éolien, et encore plus l'éolien offshore, j'ai envie de dire, ça fait partie des énergies renouvelables à développer. Comme toute industrie, ça doit faire l'objet d'études d'impact faites de manière objective, indépendante et scientifique, notamment l'impact sur la biodiversité. Et globalement, un des enjeux, c'est évidemment de ne pas se retrouver avec ce qu'on a vu en mer du Nord et ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un cimetière de plateforme. Donc la réversibilité des installations, on entre maintenant dans l'ère de l'éolien offshore flottant, ce qui est assez intéressant. Donc clairement, oui, l'éolien doit faire partie du mix énergétique pour arriver à 100% d'énergie renouvelable, parce que ce à quoi on aspire pour être dans le cadre des objectifs, c'est 100% d'énergie renouvelable, notamment pour la production d'électricité. Ça veut dire sortir des énergies fossiles et fissiles, de même que pour les autres activités. L'objectif, c'est d'avoir complètement décarboné d'ici 2050. Donc là aussi, pareil, comme c'est dit sur le transport maritime, il faut trouver des solutions pour que le transport maritime ne repose plus sur les hydrocarbures, ni sur des solutions type hydrogène gris, vert, bleu ou autre, ou sur de la compensation. On va pas planter des arbres pour faire tourner des navires au fioul. Donc oui, effectivement, il y a un saut technologique à faire vers les énergies renouvelables et vers une alternative pour tout ce qui a besoin de continuer comme activité industrielle.
Des arbres ou des algues. Éric Carcenti, tout à l'heure, François Chartier parlait de cet objectif 30-30, hein, qui est un objectif de protéger 30% des océans d'ici à 2030. Avec cette idée, j'aimerais vous entendre là-dessus, que finalement, on doit protéger de manière exclusive une partie de l'océan, ce qui permettrait d'en exploiter une autre. C'est ça, j'ai bien compris. C'est-à-dire que il y a comme ça la possibilité d'avoir avoir des vases communicants entre des espaces très protégés et des espaces avec la présence humaine et la présence d'exploitation économique. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, le biologiste, directeur scientifique de Tara Océan?
Oui, les zones protégées, oui, absolument, oui, c'est important, mais ça suffit pas, parce que si vous voulez, je pense pas que les zones, même 30% de zones protégées, soient capables de produire suffisamment pour permettre à l'humanité de prélever sans régulation dans le reste, sur le reste des océans. Il faut qu'il y ait aussi, les deux. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait d'une part une régulation du prélèvement, que ce soit la pêche ou autre chose, hein, mais qui est une régulation des prélèvements dans l'océan en fonction de ce qu'on sait réellement, objectivement, et puis de créer des zones protégées, c'est aussi très bien. Le problème des zones protégées, moi, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui essayent de mettre en place des zones protégées un peu partout. Il faut faire attention à ce qu'elles soient bien choisies, parce que si vous voulez, l'océan, effectivement, il y a une connexion, l'océan est très connecté, mais il n'est pas partout pareil, donc c'est pas du tout homogène. Il y a des zones qui sont très importantes à protéger, d'autres qui sont beaucoup moins importantes. Donc il faut bien choisir les zones pour que ça soit efficace, disons. Hein, c'est ça surtout, quoi.
François,
il faut qu'il y ait un bon choix des zones à protéger, mais il faut pas que ça soit une excuse de faire 30% de régions protégées et puis d'oublier le contrôle du reste, quoi.
François Chartier, c'est important ce que dit Éric Carcenti. Si on prend le cas de la France, par exemple, qui dit être déjà à 30% de zones protégées, en réalité, il n'y a, par exemple, en Méditerranée que moins d'1% de zones protégées. Et il faut rappeler que la France est un pays maritime, de façade maritime, le deuxième pays en termes de façade maritime au monde. Et donc voilà, on trouve ces espaces protégés peut-être dans des mers, des océans plus lointains. C'est plus difficile en Méditerranée, en bord de Manche ou que sais-je.
Oui, et déjà entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est ça. Il y a deux piliers. Hein. Si c'est la jungle d'un côté et une conservation de l'autre, on aura raté le coup aussi. Oui, c'est assez représentatif. C'est-à-dire que la France a tendance à mettre de la protection forte le plus loin possible, c'est-à-dire par exemple dans les terres australes françaises, et en Méditerranée où il y a une forte pression de pêche, où la Méditerranée, hein, c'est la catastrophe en termes d'état des ressources, on est beaucoup moins ambitieux et c'est beaucoup plus lent. Ça c'est assez représentatif finalement de la situation. Et oui, les aires protégées, alors, il y a plusieurs principes. Plus on est sur les côtes, plus on doit travailler avec les communautés de pêcheurs, que ce soit en France ou dans les zones, dans les pays en voie de développement, pour que justement la pêche artisanale puisse exister, exactement, se développer, nourrir les populations côtières, et donc davantage exclure la pêche industrielle. Donc c'est un maillage plus fin, interconnecté, parce que les poissons, il y a des notions de corridors. Vers le littoral, il faut protéger dans les zones tropicales les mangroves et les récifs coralliens, donc il y a des objectifs très spécifiques. Et puis quand on va en haute mer, il faut des grands espaces très vastes, dont on exclut les activités industrielles. Donc effectivement, c'est pas juste arriver avec une espèce de cloche et mettre la nature sous cloche de manière indifférenciée n'importe où, sans réflexion, ni avec les acteurs économiques, ni avec les scientifiques, et puis sans varier l'outil. Entre la petite aire marine protégée et la très grande, elles ont des valeurs spécifiques selon les zones et les enjeux à protéger.
Éric Carcenti, un dernier mot, on arrive au bout de cette émission. Vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit?
Oui, non, je suis complètement d'accord avec soi, je pense à ça. Oui, absolument, oui. Je pense que c'est important, mais si vous voulez, mais en même temps, faut pas être négatif, hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, il y a une vraie prise de conscience, et je pense que dans les années à venir, il va se passer des choses très intéressantes, quoi. Sur la protection, l'harmonisation avec l'environnement.
Vous êtes comme Paul Touré, vous voyez le verre à moitié plein, pardon. Oui.
Il y a la question. Voilà. Excusez-moi. Il y a la question des plastiques qu'on n'a pas forcément abordé, mais qui mérite aborder, évidemment. Ouais. Et pour rappeler que la plus grande pollution des mers aujourd'hui, elle vient pas forcément de l'exploitation qui est faite, et elle vient surtout de la terre.
L'exploitation agricole notamment. Oui. On le voit avec le problème des algues vertes en Bretagne, évidemment, et des algues aussi dans les Antilles françaises. Alors voilà. Bon, écoutez, on refera une émission pour parler de tout ça. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce temps du débat du samedi. À la réalisation, c'était Vanessa Nadjar, à la prise de son Cindy Legrumelec. Merci à Sam Boutata pour sa collaboration. Lundi, le temps du débat d'Emmanuel Laurentin posera la question: Donald Trump a-t-il rendu à l'Amérique sa grandeur? Avec Bradley Smith, Alexandra de Hoop-Scheffer et David belle. Mais avant cela, le prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité, c'est évidemment demain à 11h, l'Esprit public d'Émilie Aubry en direct de l'espace Cardin. Deux sujets, Covid, les politiques peuvent-ils échapper au rôle de père fouettard? Et après la visite d'Al-Sissi à Paris, qui veut défendre la démocratie et les droits de l'homme dans le monde qui vient? Excellent week-end à toutes et à tous à l'écoute de France Culture. Tout de suite, on retrouve Hercé Gardette, politique.